Les Chroniques Solidaires.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle saison de Chroniques Solidaires. Un podcast proposé par l'Atelier des Clics en partenariat avec le Centre Social de Saint-Jacques-de-la-Londe. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Virginie, qui est diététicienne. Elle intervient régulièrement au sein de l'épicerie sociale. Avec elle, on va parler de ce qui se passe dans nos assiettes et dans celles de nos enfants. Parce que entre les « j'aime pas » et les grimaces à table, faire manger de tout à nos jeunes peut vite devenir un sport quotidien. Grâce à ces conseils, nous apprendrons à concilier plaisir, santé et responsabilité dans nos menus. Cela va nous amener à nous questionner, nous interroger sur l'impact écologique de nos choix alimentaires. Pour m'aider à tordre le sujet aujourd'hui, nous avons dans le désordre Anne. Anne, bonjour. Lydie.
Bonjour.
Cassie.
Bonjour.
Et Fatima. Et bien sûr, Virginie.
Bonjour.
Virginie, ça va ?
Ça va.
Est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Eh bien, bonjour, je m'appelle Virginie Pancrèche, je suis diététicienne depuis un certain nombre d'années maintenant et j'ai l'occasion d'intervenir dans des épiceries sociales depuis un petit bout de temps, que ce soit pour des étudiants ou pour des publics comme on trouve autour de la table aujourd'hui.
Ok, merci. On va commencer par une question assez simple qui peut paraître bête, mais en tout cas, moi, elle me turlupine depuis un moment. C'est quoi le métier de diététicienne et c'est quoi la différence avec le métier de nutritionniste ?
Donc le métier de diététicienne, d'ailleurs, c'est diététicienne nutritionniste. On parle d'alimentation et la nutrition, c'est comment on accorde l'alimentation avec l'activité physique. Donc moi, je vais promouvoir l'activité physique et expliquer comment on peut avoir une alimentation qui est bonne pour sa santé et adaptée. Donc voilà le terme de nutrition. On aura deux professionnels de santé qui vont être autour de ce sujet-là. Ça va être le diététicien nutritionniste ou le médecin nutritionniste, qui est un médecin et qui aura fait une spécialité en nutrition. D'accord. Tous les autres professionnels de l'alimentation, en fait, il n'y en a pas.
D'accord. Ok. C'est les seuls.
C'est les seuls qui sont habilités à pouvoir donner des conseils spécifiques et on peut très bien intervenir donc à l'hôpital, par exemple. D'accord. Donc on a une vraie mission de santé publique aujourd'hui autour de publics qu'on a autour de la table, mais aussi accompagnement de patients avec des pathologies dans lesquelles on est obligé de faire certaines attentions autour de l'alimentation. Donc c'est à nous de guider les patients à avoir une alimentation qui est adaptée à la pathologie.
D'accord.
Tout en se faisant plaisir quand même. Hein.
Bien sûr. D'accord. Et pour la petite anecdote, tu travailles avec le Stade Rennais aussi, avec le centre de formation des petits jeunes footballeurs, c'est ça ?
Tout à
Donc
fait.
Ça touche vraiment tous les publics.
Bah, la nutrition, on est tous des mangeurs. Donc ça on peut toucher tout le monde et après, bah, en fonction de nos spécialités, hein, parce que voilà, chacun peut avoir des fibres particulières dans son métier. Donc en effet, moi je peux accompagner je fais beaucoup de formations pour des professionnels des cantines scolaires et des EHPAD. Et aussi, donc, je touche des publics variés en face à face, comme aujourd'hui, ou aussi donc, l'accompagnement sportif de haut niveau, que ce soit dans le sport comme le foot, ou aussi, là j'ai accompagné des athlètes pour les Jeux paralympiques, par exemple.
D'accord, super. Bah, on va continuer, comme je le disais dans l'intro, c'est pas toujours simple de concilier plaisir et équilibre dans l'alimentation, surtout avec nos enfants. Lydie, t'as deux, trois mots à nous communiquer par rapport à ça, enfin même une question.
Oui, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Lydie. J'avais une question parce que j'ai amené mon fils voir le médecin, il avait quelques petits soucis. Et seulement, le médecin a constaté qu'il était légèrement en surpoids et s'en suivait l'interdiction de ne plus lui donner des jus de fruits en bouteille, des gâteaux au chocolat, en fait, tout ce qui peut être sucré et plus ou moins, pour moi, bon pour un enfant. Alors, ma question était de savoir si je devais lui interdire les jus de fruits et les gâteaux au chocolat. Qu'est-ce qui serait bon pour lui comme elle interdit toute forme de sucre en fait. Qu'est-ce qui sera bon pour lui?
Le sucre, interdire toute forme de sucre, c'est bon quoi.
Voilà, c'est bon pour mon loulou quoi.
Ça c'est une bonne question. Alors déjà par principe, d'interdire, c'est pas une bonne idée. Parce qu'à partir du moment où on interdit, c'est très compliqué parce qu'en fait l'enfant, il va avoir qu'une envie, c'est d'aller vers l'interdit. Un peu comme si on empêche un enfant d'aller en boîte de nuit, il va faire le mur. Donc, c'est un peu le même principe. Ouais. Donc tout ça pour dire qu'en soi, il n'y a rien d'interdit. C'est juste une histoire de fréquence de consommation et que le goûter du quotidien, il faut le réfléchir comme quelque chose où on va essayer d'amener de la variété. Par exemple, si déjà il y a un fruit au goûter, peut-être tu peux le compléter avec le gâteau.
Voilà.
Et peut-être que le gâteau, tu ne l'amènes pas tous les jours. Un jour, tu peux mettre un morceau de pain avec du beurre et du chocolat, de carré de chocolat, comme on faisait quand on était petit ou même dans les cantines.
Oui,
c'est ce qu'on propose à la garderie, tu vois. Donc, un produit laitier, un yaourt, même avec un petit peu de sucre ou de la confiture pour changer. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un petit truc qui ait du plaisir, mais d'autres choses qui vont être nutritionnelles. Comme ça, lui, il aura du plaisir à manger son goûter. Et toi, tu auras fait ton rôle de maman.
D'accord. Oui.
Après, par rapport aux publicités, parce que du coup, les jeunes, ils sont énormément influencés aussi par ces publicités. Alors, il y a effectivement ce qu'on aimerait bien, mais bon, comment on peut lutter contre ça? On peut pas les...
On peut pas les enfermer.
Les yeux, quoi.
Donc, on peut pas, en effet, les empêcher d'avoir, cette sensibilité. Après, ce qu'il faut penser, c'est que parfois, les parents se donnent une bonne conscience en voulant faire plaisir aussi à leurs enfants, en répondant à cette idée, si j'achète ça, je vais lui faire plaisir. Donc, c'est vrai, le rôle nourricier des parents, il est quand même important.
Oui, bien sûr.
Donc, ces choses-là, c'est de se dire, on peut leur proposer de temps en temps, en répondant à des envies sur des choses... la marque, etc. Maintenant, c'est aussi des budgets qui peuvent être très importants, parce que des petits gâteaux, ça va très vite quand on a plusieurs enfants. Donc, c'est aussi des façons de pouvoir aller jouer sur le budget. Donc, je reviens sur l'idée de rien n'est interdit. On peut mettre des choses un peu de marque pour répondre à des envies, pour pas qu'ils sentent, quand on a des problématiques budgétaires, cette frustration de se dire, mes copains, ils mangent les gâteaux de telle marque et moi, j'en ai pas. Ça peut être frustrant parfois. Ouais. Donc, c'est juste... aux parents de se rendre compte qu'on peut le faire, mais de temps en temps, que ce n'est pas forcément du quotidien.
D'ailleurs, Cassie, toi, tu as une autre problématique avec tes loulous. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui. Bonjour. Alors, moi, c'est Cassie. Moi, mon fils, le problème, c'est qu'il mange que des pâtes.
Oui.
Il ne veut pas manger de viande, il ne veut pas manger de légumes, ni de fruits.
D'accord.
Il ne mange rien.
OK. Si, il mange des pâtes.
À part des pâtes et de la sauce tomate.
Un peu de fromage sur les pâtes?
Oui, le fromage.
OK. Bon. Du coup, il faut bien penser qu'il y a quelque chose d'instinctif, c'est-à-dire que ce dont on a besoin en premier, c'est de nourrir le corps. D'accord ? Donc, naturellement, des enfants vont plutôt avoir, et c'est normal, aimer les pâtes, le riz, la semoule, les pommes de terre, les choses qui nourrissent le corps, qui font de l'essence pour la voiture. C'est l'instinct de survie qui nous amène à ça. Et puis, si on va vers vraiment le côté instinct, quand on était à l'époque... où on a commencé à essayer de diversifier l'alimentation et de manger des choses vertes, tu avais une chance sur deux de manger un truc vert et peut-être de ne pas te réveiller le lendemain. Donc instinctivement, chez l'enfant, les produits verts, ne nourrissent pas et sont potentiellement toxiques. Le côté moisi, par exemple, tu vois, c'est vert aussi. Donc c'est naturel, donc il faut déjà se déculpabiliser en tant que parent de ne pas y arriver tout de suite. Ça, c'est le premier point. Okay ? Faut pas désespérer, mais surtout, faut surtout pas baisser les bras. C'est-à-dire qu'il faut toujours continuer à essayer de proposer. Et un jour, je ne sais pas si peut-être toi, il y a un truc que tu manges aujourd'hui que tu ne mangeais pas quand tu étais petite.
Oui, il y a des trucs que je mange.
Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner?
Tout ce qui est tomates, concombres, je ne mangeais pas avant.
Et tu ne mangeais pas avant. Et tu vois, il n'y a pas de bons... Enfin, cet exemple-là, il est parlant. C'est-à-dire que même toi, en tant qu'adulte, il y a des choses que tu n'aimais pas en tant que petite... T'as éduqué tes papilles et les papilles, elles sont prêtes à tout accepter et tout apprécier. Mais c'est comme tout, il faut les entraîner. On ne fera pas des bons joueurs de foot si on ne s'entraîne pas. Et là, c'est pareil, tes papilles, il faut les entraîner. Et toi, ton job de maman, ça va être d'accompagner ton enfant à s'entraîner à aimer. Et c'est normal qu'il n'aime pas au début. Il y a des études qui montrent qu'il faudrait présenter un même aliment sous un même format 25 fois au moins pour se dire, c'est dur à manger pour moi. Généralement, on n'a jamais été jusqu'à 25 fois.
Oui.
C'est pour ça qu'on tout de suite, on dit, il n'aime pas. Non, il faut continuer à proposer.
Mais si c'est dangereux pour sa santé, s'il ne mangeait par exemple que des pâtes et qu'il ne se nourrissait que de pâtes, est-ce que ça peut être dangereux pour
Alors,
sa santé?
Une des astuces qu'on va essayer de faire, c'est de dire, il aime les pâtes. On va s'aider avec ce que l'aliment que l'enfant aime en essayant de le rajouter. Par exemple... Généralement, des plats comme des lasagnes, c'est un truc qui est apprécié des enfants. Et là, on va faire une sauce. Généralement, tout ce qui va être rouge et orange passe mieux que le vert. Donc on va essayer de faire une sauce base tomate. Peut-être dedans, on aura caché un peu de poivron. Si c'est mixé, certaines fois, c'est plus facile au départ pour accommoder certains aliments qu'on va intégrer. Et on met dans les pâtes. Et à ce moment-là, ben, on a plus de facilité. Il y a un truc qu'on aime. Et puis, progressivement, ça va le familiariser. Il faut penser aussi qu'ils aiment bien, si vous faites une salade composée, par exemple, où vous mélangez des aliments, chaque aliment est pour un enfant différent. C'est-à-dire qu'il appréciera plutôt d'avoir un peu de maïs, un peu de tomate séparés dans une assiette qu'une salade de tomate au maïs mélangée.
Ben moi, c'est ça. Qui est mélangé, il ne veut pas.
Eh bien, c'est normal, figure-toi. C'est tout à fait normal. Donc, il fera des petits tas et puis progressivement, peut-être il goûtera un peu le truc jaune alors qu'il va manger que la tomate. Pour l'instant, mais il ne faut pas désespérer.
Tu n'as pas répondu quand même à ma question. Est-ce que si jamais il ne mangeait que des pâtes, est-ce que de se nourrir que d'un aliment, ça peut être dangereux pour la santé?
Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on amène une certaine variété dans l'alimentation. Maintenant, de là à dire c'est dangereux, faut vraiment réindividualiser les choses, laisser les enfants le temps de réussir à apprécier, etc. Il ne faut pas désespérer, c'est l'éducation au goût. Donc oui, dans un sens, plus on aura de variété, les fruits et les légumes sont quand même des bonnes sources de vitamines. Oui. Il y a certaines vitamines dans les pâtes, mais qu'on trouvera, les vitamines de certains légumes, on ne trouvera pas ailleurs. Donc oui, il faut qu'on essaie de leur amener à en manger, bien évidemment. Quoi.
D'accord.
Mais on se laisse le temps et on fait comme on peut. Hein.
Bah toi, Anne, d'ailleurs, tu fais un peu comme tu peux, mais c'est avec un plus grand enfant, avec plutôt une ado. Tu peux nous en parler ?
Ah oui, bonjour. Alors, j'ai pas dit bonjour tout à l'heure. J'ai une fille qui a 16 ans et elle vit principalement aujourd'hui chez son papa. Et j'ai pas de regard vraiment sur ce qu'elle mange. Je crois savoir qu'il y a beaucoup de McDo et que c'est un petit peu tout le temps pareil. Et est-ce que je peux aider ma fille à réfléchir à son alimentation? Comment garder un regard et garder mon rôle de parent qui est clair?
Ouais, tu veux accompagner au mieux ta fille de toute façon.
Voilà.
Mais t'es pas tout le temps avec elle.
Voilà.
Et en même temps, maintenant, elle a 16 ans.
Voilà.
Donc elle grandit, donc c'est aussi lui laisser un petit peu la main, parce que c'est elle qui va faire la transition entre chez son papa et chez toi. Donc quelque part, c'est l'essayer de lui expliquer que déjà chez toi, il y a quand même quelque chose quand on est parent qui n'est pas forcément évident, c'est d'essayer d'être assez exemplaire. Je vais prendre un exemple. Si on ne prend pas de petit déjeuner, c'est très difficile de faire comprendre à son enfant que ce serait bien de prendre un petit déjeuner avant d'aller à l'école. Donc si déjà il y a un modèle, toi tu auras déjà fait une grande partie de ton job de parent, si le modèle chez toi, sur là où tu as la main, hein, parce que tu ne pourras pas avoir la main de tout ce qui se passe, là c'est chez son papa, mais il y a aussi avec les copains à 16 ans, ils vont manger à l'extérieur, ils grandissent, hein, donc il faut aussi leur laisser faire les choix. Et s'il y a eu un modèle à un moment donné, dans la phase de l'adolescence, c'est assez normal qu'ils aillent chercher à manger à l'extérieur, différentes choses, mais à partir du moment où le modèle leur a été là, ils auront eu des bases, de socles, qui leur permettra, quand ils grandiront, d'y revenir. Donc c'est des phases aussi normales. On parlait tout à l'heure des petits, ce qu'on appelle la néophobie, c'est la peur des aliments nouveaux. C'est quelque chose d'assez normal pour 75% des enfants. Et là, à l'adolescence, c'est aussi normal. C'est une phase un peu de rébellion quand même. Hein. Donc la part alimentaire, elle va aussi là-dedans. Et puis après, avec le rôle du parent, quand c'est des fratries séparées, on ne peut pas tout maîtriser. Hein.
Et tu as des outils pour en parler d'alimentation? Parce que c'est vrai que...
Pour en parler avec les enfants?
Ouais, avec un ado. Des fois, c'est compliqué de parler en général avec les ados, mais c'est pas...
Pour moi, la meilleure façon d'aborder l'alimentation, qu'elle soit avec un ado, une personne âgée, une personne... dans toute situation, c'est de passer par la pratique et de goûter et de montrer qu'on peut faire des trucs sympas, bons, et à nous, après, d'avoir les bonnes idées pour qu'on montre que quelque chose de sain et adapté pour sa santé, on puisse kiffer ce qu'on mange.
En gros, on fait la cuisine, quoi.
Ça passe un peu par là, quand même. Et ça permet de choisir les produits et peut-être d'autres questions seront là-dessus, j'imagine.
En parlant de faire de la cuisine, Fatima, toi, t'as d'autres problématiques avec l'alimentation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît ?
Bonjour, c'est Fatima. Moi, ce que je peux dire sur ce sujet est que j'ai observé une forte augmentation au niveau des prix de fruits et légumes. Depuis quelques années, ça devient de plus en plus cher d'acheter des fruits et légumes, notamment d'autres produits aussi. Mais là, le sujet, c'est les fruits et légumes.
Le budget. Et les fruits et légumes, oui, je comprends.
Voilà, donc on s'en sort difficilement. Donc moi, ma question est comment peut-on faire plaisir tout en mangeant sainement et comment bien manger avec peu de moyens.
Donc, c'est vrai que les fruits et légumes, il ne faut pas se cacher que ça a quand même assez augmenté hein, avec l'inflation. Déjà, la première des astuces, c'est bien penser. Là, je discutais dans un foyer de jeunes travailleurs il y a 2 jours. Et il y avait un jeune qui ne comprenait pas. Il disait, pourquoi le concombre, là, on est au mois de novembre, pourquoi le concombre, il coûte 2 euros alors qu'il coûtait 1 euro pendant l'été? C'est parce que ce n'est pas la saison. Donc déjà, tous les coûts de transport, etc., des produits qui viennent de plus loin, bien évidemment que hors saison, ça coûte plus cher. Donc la première des astuces pour manger des fruits et des légumes à moindre coût, ça va être de revenir à la saison. Des carottes, à cette période de l'année, ça reste des choses qui ne sont pas très chères. Le chou, la citrouille au prix au kilo, tout ce qui est potimarron, etc., on peut faire des choses pas chères du tout. Potimarron, c'est pas cher au kilo. Donc ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, à ce qu'on disait, c'était de se dire, oui, il faut qu'on revienne un petit peu à la cuisine pour faire les choses maison. Sinon, y a aussi le fait de se dire qu'il vaut mieux manger même des légumes qui sont en conserve que pas manger de légumes du tout. Et que parfois, selon la saison, il vaut mieux sortir une boîte de haricots verts que d'acheter des haricots verts frais. Je sais pas combien, au moins 7 euros du kilo des haricots verts frais, c'est inabordable quoi, pour la majorité des gens. Et on sort une boîte de haricots, on la pimpe un peu en rajoutant de l'ail, du persil, histoire de se faire plaisir quand même. Et puis on l'accommode avec autre chose. Donc déjà, la saisonnalité, c'est la base. Et puis bien penser aussi que certains produits en conserve ou surgelés, on n'y perd pas tellement. Il n'y a pas faut se déculpabiliser à utiliser ces produits-là, qui parfois, par exemple du chou-fleur surgelé, parfois est moins cher que du chou-fleur frais, quoi. Même s'il y a un peu plus de déchets.
Mais comment on repère, alors c'est peut-être une question un peu idiote, mais comment on repère les aliments de saison? Parce que quand on arrive dans un supermarché, des tomates, il y en a toute l'année. Pour quelqu'un qui n'est pas initié à ça, comment il sait que les tomates, ça pousse en été?
C'est une bonne question.
Non, mais surtout pour des gens qui vivent en ville, y a des gens qui sont alors, un peu déconnectés des légumes et des fruits de saison.
Il y a en effet cette difficulté de l'accessibilité au jardin potager, par exemple, et du coup, on n'a pas eu les exemples dans sa vie quand on était petit ou pas d'ailleurs. Et il y a aussi le fait qu'il y a aussi les problématiques de culture, c'est-à-dire de la culture, de certaines cultures qui ne connaissent pas. Enfin, pas la culture des produits, vous suivez, qui font que du coup, il y a certains produits que les gens ne vont pas connaître et ne vont pas forcément. Le chou, par exemple, ou les endives, l'artichaut, bien breton, du chou-fleur, c'est des produits que certaines cultures ne connaissent pas forcément ou ne savent pas utiliser. Donc il y a quand même maintenant aussi quand même pas mal de ressources. L'accessibilité aux ressources sur Internet, etc., sont quand même assez faciles. Des recettes, des façons de préparer tout ça, on en trouve facilement. Sur la saisonnalité, vous pouvez avoir des ressources où il y a des calendriers, justement, qui disent, si on est en ville et qu'on ne se rend pas compte que dans les potagers, il y a en ce moment des courges à ramasser, du coup, ces calendriers-là, c'est quand même un bon outil.
Après, les hyper et les supermarchés pourraient faire aussi de la signalisation.
Ah oui, c'est vrai.
Dans leur magasin pour qu'on soit renseigné.
Possible. Déjà, si on regarde les produits les moins chers, on a de grandes chances de tomber sur les produits de saison.
Bien sûr.
Déjà.
Merci. Alors, Fatima, toi, tu as une question sur l'alimentation durable. Tu te demandes ce que c'est. Est-ce que tu peux prendre la parole ?
Oui. Alors, de nos jours, on parle de plus en plus d'alimentation durable. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, je pense que même moi, je ne connais pas exactement ce que cela veut dire.
Les enjeux de l'alimentation durable.
Oui. Qu'est-ce que c'est que...
C'est assez difficile de donner une définition comme ça. En fait, ce qu'il faut penser, c'est que tout ce qui est produit au niveau alimentaire, que ce soit animal ou végétal, a un coût, entre guillemets, pour la planète sur différents critères. On pourrait considérer les gaz à effet de serre, mais maintenant aussi, on compte l'accessibilité à l'eau. Parce que l'eau, c'est quand même une ressource qui est compliquée, on voit bien. Alors, il y a des années où l'eau, on se dit qu'on en a eu beaucoup, mais il y a eu des années où quand même il y a eu des grosses sécheresses, là, cet an dernier. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire comment je peux avoir une alimentation qui est la moins coûteuse pour la planète. Si on peut donner des grandes lignes, par exemple, il y a plus d'impact en effet sur les gaz à effet de serre et sur la demande en eau pour produire un kilo de viande, si je donne cet exemple-là, qu'un kilo de végétaux, quel qu'il soit. Donc c'est vrai qu'en ayant une alimentation qui va intégrer un petit peu de, par exemple, des protéines d'origine végétale, donc de quelques repas végétariens dans la semaine, c'est sympa pour le budget parce que généralement c'est moins cher. Et en plus, on aura un effet durable sur l'alimentation. Je vais donner un autre exemple. Si on fait des recettes avec de la crème fraîche, il faut en moyenne à peu près une dizaine de litres de lait pour faire un kilo de crème fraîche. Il faut que 4 litres pour faire un kilo de fromage blanc. Donc dans certaines recettes où on pourrait utiliser du fromage blanc à la place de la crème fraîche, bah on aura moins exploité les produits et du coup on est plus économe, si on peut dire, et du coup donner une accessibilité aux produits à un plus grand nombre de ce fait. Donc du coup, un peu de végétarisme, si on peut expliquer un repas dans lequel on ne mettrait pas de viande, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller dans les cultures. On voit bien qu'il y a des recettes où on mélange des céréales avec des légumes secs. Les légumes secs, tout ce qui va être pois chiches, pois cassés, haricots rouges, haricots blancs, etc. Comme du couscous végétarien, où on a de la semoule, des pois chiches et beaucoup de légumes. Avant, ou même culturellement, il y avait un peu de viande dans du couscous. Maintenant, des couscous royaux, mais le couscous royal, c'est pas tous les jours, quoi. Ouais. On aurait tendance à intégrer aujourd'hui systématiquement de la viande dans ces produits-là, alors qu'au final, c'était des produits qui disaient le dimanche ou un autre jour, on met de la viande, mais c'est pas du tous les jours.
Oui, et puis la viande tous les jours, c'est pas si ancien que ça. Enfin, avant, on mangeait de la viande le dimanche.
C'est l'après-guerre. Mais par contre, on utilisait quand même la totalité du produit, c'est-à-dire si vous regardez un peu dans les cultures de nos grands-parents, par exemple, c'est-à-dire si le poulet du dimanche de la ferme passait à la casserole, si je peux dire, bah on mangeait la viande, mais après, il y avait un bouillon qui était fait, où le bouillon était cuit, recuit, tous les nutriments de l'animal qu'on avait mis du temps à élever, et peut-être un peu aussi d'intérêt, d'amour. Voilà, donc on savait pourquoi on l'élevait. Aujourd'hui, on va au supermarché. Donc le lien avec ce côté-là de ne pas... Et puis on achète l'escalope, pas le poulet en entier. Oui. Donc du coup, il y a un peu de déperdition sur les produits d'origine animale qui sont réutilisés, il faut l'espérer, pour certaines autres choses, l'alimentation des chiens, des chats, par exemple. Mais et encore, je ne m'y connais pas trop là-dessus. Mais on voit bien qu'il y a quand même une perte de la matière.
Il y a du gaspillage.
Il y a un gaspillage qui est dommage, quelque part, par rapport à ça.
Ah, du coup, toujours en restant dans le domaine de la viande, enfin en inversant, il y a de plus en plus de personnes végétariennes. On parle de vegan, de véganisme. Alors, on se pose pas mal de questions autour de la table, autour de justement de la consommation de cette viande. Et Anne a quelques questions à te proposer.
D'accord, Anne, je t'écoute.
Voilà, j'aimerais savoir si la façon d'élever un animal, que ce soit
par rapport à l'élevage, ta question,
l'animal terrestre ou l'animal dans l'eau,
le poisson ou la viande, voilà. C'est ça, ok.
Et c'est la façon dont il est élevé,
ouais.
La façon dont il est tué, est-ce que cela a un impact sur
les qualités nutritionnelles, voilà. C'est pas exactement ça ta question, souvent pas on me la pose, en tout
pas
cas
pas que nutritionnel, mais aussi est-ce que par exemple il y aurait pas quelque part une certaine toxicité
Par rapport à l'abattage.
J'ai entendu parler que un animal stressé va être
c'est une bonne question à laquelle je serais pas capable de te répondre. En tout cas, éthiquement, on peut se poser la question, en effet, est-ce qu'on n'a pas envie que on est omnivore. Donc omnivore, ça veut dire manger un petit peu de tout. Après, c'est la quantité. Et en effet, la question aujourd'hui de cette surproduction amène à des élevages assez intensifs dans les conditions d'élevage des animaux qui n'est pas forcément éthiquement très acceptable certaines fois. Donc c'est vrai qu'on peut se questionner là-dessus. De là, te donner une réponse de savoir si tu manges un animal qui a été stressé, si je comprends bien, à l'abattage, ça a de l'impact sur toi. Peut-être tu vas être stressée après. C'est ça la question.
Oui, la façon dont il a élevé aussi, par exemple, comme on parle des poulets de plein air, des choses comme ça.
Alors, par exemple, un poulet de plein air, je pourrais te répondre sur la qualité nutritionnelle pure. Un poulet de plein air, il a gambadé, il a mangé de l'herbe. L'herbe, c'est la première ressource pour enrichir la chair de l'animal en oméga-3. On en entend beaucoup parler, les oméga-3. C'est du gras, matière grasse, qui est très protectrice pour le côté cardiovasculaire. Donc, un animal, que ce soit le poulet ou l'œuf issu du poulet qui a été en plein air, va être beaucoup plus nutritionnel, d'accord ? Nutritif, tu vois ? Il va te nourrir vraiment, parce qu'il va y avoir des qualités différentes. Sur l'histoire du stress, malgré tout, on peut se questionner, parce que c'est vrai que le stress, aujourd'hui, on en évoque beaucoup, sur les taux de cortisol, notamment. Donc, est-ce que si on consommait un animal avec une dose de stress... J'avoue que je ne sais pas vraiment répondre à ta question, mais elle est intéressante quand même.
Et du coup, les animaux qui sont nourris par des farines animales, est-ce qu'on connaît les
conséquences potentielles sur la santé ? Je dirais que ça dépend de l'animal. Si tu un cochon, par exemple, qui est omnivore,
bien sûr.
À la limite, voilà. C'est, par contre, quand on change le régime alimentaire d'un animal pour qu'il grossisse plus, plus vite, pour qu'on ait plus à manger après, qui peut se questionner. Ah, elle a une autre question, Anne, du coup.
Non, c'est pas une question, mais c'est juste que ça me rappelle l'histoire de la vache folle, quoi.
Pour en revenir à ça, c'est vrai que cette histoire de consommation de viande, on parle beaucoup des viandes de gros animaux, c'est-à-dire qu'il y a des recommandations de santé, hein, si on peut rentrer un peu plus dans le détail, c'est-à-dire la consommation de gros animaux comme le bœuf. Il est recommandé de ne pas en consommer de trop, pas plus de deux fois dans la semaine, parce que c'est du gras qui est un peu moins protecteur au niveau cardiovasculaire. Il est conseillé de manger du poisson deux fois par semaine, en ayant un poisson gras, un poisson blanc. Dans les poissons gras, on va faire très attention à la variété de ce qu'on va apporter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les épiceries sociales, il y a un accès, quasiment à chaque fois, une possibilité d'avoir des petits poissons gras comme des sardines et des maquereaux. Il faut savoir les accommoder, ça c'est encore autre chose. Mais par contre, ça c'est quelque chose de très intéressant en termes de source de protéines animales, car en plus, il y a des bonnes graisses dedans. Et il n'y a pas trop de métaux lourds, parce qu'on entend beaucoup parler de justement, tu parlais des poissons, etc. Ben, c'est vrai qu'il y a une pollution aussi au niveau des océans, qui fait que les gros poissons ont tendance à se charger en métaux lourds. Et du coup, quand tu le manges, ben, tu manges aussi un petit peu ça. Ce n'est pas le cas sur les sardines et les maquereaux. Et c'est quand même un produit qui n'est pas très cher. Et c'est bon.
Ouais.
Avec du pain beurre, clairement.
Sardine à l'huile, c'est délicieux.
C'est délicieux. Voilà, c'est une belle conclusion sur le poisson.
Merci. Alors, on arrive à la fin tout doucement de ce podcast. Pour finir, si les légumes avaient des super pouvoirs,
ils en ont.
Oui, effectivement. Mais lequel serait le plus utile pour sauver la planète ?
Ah, pour sauver la planète ou pour sauver les humains ?
Bah, on en fait partie de cette planète en même temps. Donc, pour sauver la planète, c'est un peu sauver les humains.
Oui, c'est une autre question. Ouais, pour sauver la planète. Faire, parce que moi, je suis habituée à me sauver les humains plus que la planète.
Bah, va pour les humains.
Comment dire ? Pour les humains, il y a quand même un gros intérêt à avoir une consommation de fruits et légumes régulière et quotidienne. C'est que c'est une très, très bonne source de fibres. Les fibres, elles font baisser le taux de cholestérol et elles évitent de faire monter trop le sucre dans le sang. Donc, évitent les problématiques liées au diabète, dont on parle beaucoup. Elles ont des vitamines pour être en forme et éviter d'attraper la moindre petite bêtise qui passe l'hiver, protection de l'immunité. Et puis, on sait que ça peut amener des choses un peu embêtantes, hein, comme on a vu en 2020, on va dire. Donc, des super pouvoirs, les légumes, ils en ont plein. Ils ont aussi plein d'antioxydants qui nous protègent de la pollution. Donc, c'est déjà plein de super pouvoirs. Pour la planète, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que si on mange plus végétal et plus de légumes secs, il y a un côté très durable là-dedans parce que c'est des aliments qui vont être assez, les légumes secs notamment, fibreux, riches en vitamines, en minéraux et en protéines d'origine végétale.
Oui,
et c'est une bonne façon de pouvoir subvenir à une partie de ses besoins en tant qu'humain sans trop exploiter les ressources de la Terre.
Mais est-ce qu'on exploite plus les ressources de la Terre en faisant pousser des légumes ou en élevant du bétail ? Est-ce qu'on sait ça ?
Moi, je dirais qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'agriculture génératrice. Il faut qu'on soit attentif au fait qu'il ne faut pas qu'on soit trop non plus, la voie de la modération, moi, je pense à ça, à exclure trop le produit animal, parce qu'en fait, les fientes animales sont des très bons engrais pour la source végétale. Et que l'un ne va pas sans l'autre. De plus, on parle aujourd'hui de... On veut essayer de maintenir des espèces, des races anciennes de bovins qui font partie de notre patrimoine, etc. S'il n'y a pas des gens qui les consomment, eh ben, il n'y aura pas de gens à les produire. Donc, quelque part, c'est aussi à nous de... Comment dire, ouais, oui, manger moins de viande, peut-être plus de qualité, moins de poissons d'élevage pour plus de qualité, de la pêche durable, etc. Et puis, intégrer plus de végétal pour avoir un budget à peu près équivalent en amenant un peu de qualité.
Tout ça, c'est en équilibre, en fait.
C'est toujours le principe de l'équilibre.
Merci beaucoup pour tous ces petits conseils. Merci à tous autour de la table. Merci à Anne, merci à Fatima, merci à Lydie, merci à Cassie. Bref, merci à tout le monde pour cette émission. Nous espérons que ce podcast inspirera chacun à réfléchir à son alimentation et aux petits gestes qui peuvent faire la différence. Chronique solidaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Et d'ici là, prenez soin de vous et de votre assiette. Merci, au revoir.
Tu respires. Les chroniques solidaires.